France Inter. Laetitia Gaillet. Le 5-7.
6h20. Bonjour Johanna Hocken.
Bonjour.
Johanna Hocken, vous êtes docteur en philosophie, auteur de la philo pour enfants, expliquée aux adultes. Vous animez des ateliers philo avec des enfants depuis quelques années en Seine-Saint-Denis. Alors, on a tous, adultes, je dirais, une idée plus ou moins bienveillante vis-à-vis de la philosophie. Comment on fait pour philosopher avec des enfants ?
Finalement, pour philosopher avec les enfants, la première chose, c'est de se mettre à l'écoute de leur univers philosophique. Et c'est ça la première chose qui est étonnante, c'est qu'ils ont un vrai univers philosophique, c'est-à-dire un monde de questions sur la vie, un monde de concepts, de mots qui sont dans leur existence. C'est bien, c'est pas bien, c'est beau, c'est gentil, c'est méchant. Et on s'appuie en fait sur cet univers philosophique naissant pour mettre en place des discussions. On accueille ces questions et ces concepts, et puis à partir de là, on réfléchit ensemble, on approfondit et on les encourage à faire éclore vraiment toutes leurs pensées.
Mais on n'a pas besoin donc d'être mature, d'attendre la fin de la terminale pour apprendre à philosopher. On peut philosopher dès le plus jeune âge.
Alors c'est vrai qu'il y a un mythe selon lequel il faut avoir une certaine maturité intellectuelle, psychologique pour pouvoir philosopher. Et c'est vrai que alors. D'une part, on peut penser que les enfants n'ont pas une maturité, et parce qu'ils manquent d'expérience et de connaissances, et en même temps, on se rend compte qu'ils ont une espèce de sagesse et d'authenticité dans leur façon de voir la vie. Donc ils ont une forme de maturité au sens où leurs idées, leurs pensées, on sent qu'ils ont une véritable expérience du monde, qui serait aussi finalement assez juste. À la façon d'un adulte mature.
C'est ce que vous avez constaté, vous, au fil de vos ateliers ?
Oui, vraiment, je pense que tout adulte et tout philosophe peut vraiment être saisi et en fait chamboulé dans ses idées grâce à aux propos des enfants. Il y a vraiment.
Mais comment on fait alors ? Comment on organise ces ateliers philo ?
Alors, il y a une sorte de rituel. En fait, le but, c'est de créer un espace de parole distinct de toutes les autres sphères de la vie. Donc, c'est vraiment c'est un rituel où on s'installe en cercle, où on pose vraiment le fait que chacun est capable de penser, de s'exprimer, qu'on va écouter toutes les idées. Et ensuite, on prend une première question qu'on va détricoter ensemble. Et puis, à partir de ce qui va apparaître dans cette première question, le facilitateur philosophe, donc l'animateur de l'atelier philo, va essayer de trouver un problème, un nœud. Et c'est à partir de ce nœud-là qu'on arrive à une autre question, qu'on va aussi démêler avec les enfants, etc. Et on fait toujours un aller-retour entre l'abstrait et le concret, entre les grandes questions et l'expérience concrète quotidienne des enfants.
Et c'est quoi les grandes questions de ces enfants ?
Il y a vraiment des questions. Souvent, c'est des questions massives, métaphysiques. À quoi ça sert de vivre alors qu'on sait qu'on va mourir ? Est-ce que l'amour est plus fort que la mort ? Comment ça se fait qu'on peut pas communiquer avec les animaux, etc. Enfin, il y a vraiment. Je pense qu'ils ont ciblé. Ils ont ciblé un petit peu les porosités, ce qui accroche dans la condition humaine. Ils ont ciblé les choses qui posent problème.
Et est-ce qu'on peut philosopher surtout, par exemple, on est un week-end pascal, donc il y a des fêtes religieuses, on peut philosopher sur la religion, on peut aussi philosopher sur des faits d'actualité, comme on le voit, par exemple, ce qui se passe au Sri Lanka,
Je pense qu'on peut philosopher surtout dans la mesure où c'est rattaché à une question universelle. Il y a quand même un postulat dans la philosophie selon lequel on va toujours avoir des problématiques qui traversent toute l'humanité, depuis toujours et partout. Donc on peut prendre n'importe quel fait d'actualité ou n'importe quelle thématique, mais il faut que ça résonne avec une problématique existentielle, universelle, que tout le monde peut s'approprier.
Et qu'est-ce que ces séances ont révélé chez les enfants, selon vous ? Parce que vous parlez qu'il y a des enfants qui s'expriment plus que d'autres, par exemple.
En fait, j'ai l'impression que, bizarrement, alors qu'ils pensent, évidemment, tous les enfants pensent spontanément, j'ai l'impression que d'un coup, ils prennent conscience d'eux-mêmes comme êtres pensants. Comme si dans leur identité, il y a quelque chose qui surgit, où ils se disent non seulement je suis un individu, j'ai un prénom, j'ai une famille, etc., j'ai un caractère, mais là, je suis un être qui pense. Et donc, je suis capable de produire des idées. Et j'ai l'impression qu'ils se vivent pour la première fois comme auteurs d'idées, en fait, d'idées peut-être nouvelles ou d'idées qui peuvent marquer leurs camarades, etc. Et donc, dans cette découverte d'eux-mêmes comme êtres pensants, ils développent une estime intellectuelle d'eux-mêmes. Et en effet, ce sentiment d'estime qu'ils peuvent éprouver désormais. C'est extrêmement marquant pour des élèves en difficulté ou des élèves qu'on entend peu dans les autres moments de l'école ou de la classe. Et donc c'est vrai que là, on découvre... Il y a une sorte de découverte, quoi, une épiphanie qui se crée.
Vous racontez l'histoire de ce garçon qui parle pas et vous en parlez avec l'instituteur. C'est quoi exactement ?
Alors c'était un enfant qui était vraiment réticent aux ateliers philo, si bien qu'il ne voulait pas vraiment s'intégrer dans le cercle. Donc je me suis dit, bon bah là il a une sorte de rôle qui s'est créé dans sa vie scolaire, dans sa vie personnelle, où il se met à part, quoi. Et il ne se sent pas capable de penser. Et puis à un moment, il s'est intégré dans le cercle, c'était vers le mois de mars, donc ça faisait un certain nombre de mois qu'on philosophait ensemble. Et là, il s'est rapproché du cercle pour dire on a le pouvoir d'aimer. Et ça, c'était sa première parole, donc c'était hyper marquant de voir ce petit qui arrive pour la première fois et qui dit, sa première parole après des mois à écouter ses camarades, c'était dire on a le pouvoir d'aimer, quoi.
Alors donc, que l'instituteur vous disait, lui, il fait rien.
Oui. C'est là où il faut se détacher aussi des étiquettes, etc. Il faut souvent je demande pas aux enseignants vraiment qui est qui pour pas être imbibé en fait peut-être des opinions qu'ils ont sur leurs élèves et qu'ils ont développées au cours du temps naturellement.
Alors dans votre livre il y a la partie explication comment sont organisés vos ateliers puis il y a le contenu de ces ateliers et j'ai noté des mots qui ont été dits quand un enfant dans un de vos ateliers dit comme ça je n'ai pas de réponse sur la liberté ça n'existe pas, ça dit beaucoup de choses ce type de réponse. Est-ce qu'on répond finalement à l'enfant ou on laisse filer, on le laisse dire?
C'est les deux en fait, c'est à la fois accueillir et avec bienveillance ce qui est dit par l'enfant et ne pas le rejeter et en même temps c'est le pousser à aller plus loin. En l'occurrence, par exemple, lui demander un argument. Pourquoi tu penses que la philosophie n'existe pas? Parce que c'est quand même radical. Et là aussi, c'est intéressant parce que, comme je disais, c'est une discussion collective, l'atelier philo. Donc si un enfant pose une thèse, c'est sa thèse, il a envie de la défendre, c'est très intéressant et puis on va pas la rejeter. Par contre, on peut demander au groupe, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que vous avez des arguments, des contre-arguments ou des exemples? Et du coup, collectivement, ils vont aussi enrichir leurs pensées et aller plus loin que leur première idée initiale.
Et les adultes là-dedans, comment ils reçoivent ça?
Je pense qu'il y a vraiment... ils découvrent, en fait, ça rejoint l'idée de la découverte. Ils rencontrent, j'ai l'impression, souvent, les enseignants qu'ils fréquentent au quotidien d'une autre façon, que ce soit les enseignants ou les parents. Il y a une espèce, il y a un regard qui porte sur leurs enfants. Ils se disent, mon Dieu, mais il a une vision de l'existence, il a des convictions, etc. Et...
L'important, c'est de développer l'esprit critique de ses enfants.
Oui, l'esprit critique, dans un sens très précis, parce qu'il y a parfois il y a des malentendus là-dessus. C'est-à-dire développer l'esprit critique, non pas développer chez eux du cynisme ou du scepticisme qui mettrait tout en doute. C'est plutôt se dire, avoir l'esprit critique, ce sera prendre le temps de penser, prendre le temps de savoir ce que j'en pense, est-ce que je pense que cette idée, elle est juste, elle est vraie, elle a une valeur, etc.
Vous trouvez, Jonah Hocken, que l'éducation nationale ne prend pas assez en compte la pratique de la philosophie chez les plus jeunes?
Je pense qu'effectivement, à l'heure actuelle, c'est pas pris en compte, alors qu'il y a de nombreuses recherches qui montrent la valeur que ça peut avoir dans le parcours scolaire. Et c'est dommage parce qu'en effet, on voit que le fait d'apprendre à penser, ça permettrait d'enrichir tous les autres domaines de la scolarité. Ce serait quelque chose de transversal, d'avoir vraiment d'avoir pris connaissance de sa faculté de penser et pouvoir utiliser tous ses outils. Ce serait transposable ailleurs.
Merci beaucoup, Jonah Hocken. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La philo pour les enfants, expliquée aux adultes. C'est paru chez Temps Présent. Merci, Jonah Hocken, d'avoir été l'invité de ce 5-7.